Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Devenir autonome, c'était le titre de notre émission de rentrée. Ça reste notre thème pour quelques semaines encore, avec ce matin un petit tour du côté de Fribourg, en Allemagne, dans un jardin collectif particulièrement bien pensé.
Là, c'est un peu tout l'équipement que les gens utilisent quand ils viennent ici pour travailler. C'est bien pour ce matériel-là pour aller dans la pluie.
Et tout ça, c'est la récupération ou ça fait partie du budget
On a récupéré aussi quelques trucs qui étaient encore là, d'utilisables sur la ferme, comme on l'a trouvé.
Mais vous avez quand même prévu d'acheter les chaussures, les bottes, les cirés.
Ouais. Faut du bon équipement, sinon les gens, ils sont...
Des chapeaux, je vois.
Ouais, c'est une question de sécurité aussi. Hein. Moi, je suis pas trop fan du jardinage hippie à pieds nus ou... Ouais, peut-être je peux faire ça dans mon jardin, mais c'est qu'on a beaucoup de responsabilités aussi. On veut rien, on veut pas d'accident ici. On veut que les gens soient aussi introduits bien à ce qu'ils font. On n'a jamais eu vraiment d'accident et j'espère que ça restera comme ça.
Vous aviez déjà travaillé dans des champs?
Non, j'avais pas tellement d'expérience agricole directe comme ça. Non, pas tellement. C'est ici, j'ai beaucoup appris les dernières années ici. Ouais.
Et?
C'est impressionnant. Enfin, moi, ça a vraiment changé ma manière de me nourrir d'abord. Déjà parce que je reçois plein de produits ici de la ferme. Mais d'autre part, j'ai réussi à comprendre l'intensité du travail et la quantité de travail qu'il y a derrière certaines choses. C'est très chouette vraiment de voir tous les processus de production, comment on s'organise. On apprécie beaucoup plus, disons, quand on a de la mâche, par exemple, à la maison, ou bien des différentes tomates, ou des choses comme ça. Enfin, j'ai appris les carottes. On est quand même assez fiers. Enfin, les produits qu'on a sont vraiment de très bonne qualité. Nos carottes, elles ont un aroma vraiment formidable. Chaque fois que je fais une salade de carottes ou des choses comme ça, les gens, ils sont étonnés. Mais c'est une expérience...
Sensorielle,
nouvelle pour certaines personnes. Il y a vraiment beaucoup de personnes, à mon avis, qui sont aussi dans la coopérative parce que c'est des gourmets, ils aiment bien.
Vous avez glissé très rapidement de la somme de travail à la somme de plaisir.
Voilà.
Lucas Schulz, on parle beaucoup de légumes, on ne parle pas de fruits, il n'y a pas de fruits ici?
Pas vraiment, il n'y a pas de fruits, non. Mais il y a quand même des gens qui s'organisent pour qu'il y ait des fruits de temps en temps, comme ça arrive.
Ils s'organisent?
On n'est pas vraiment...
C'est-à-dire
disons que nous, on a dit qu'on ne peut pas vraiment investir le travail, pour le moment, à faire des fruits sérieusement, vraiment produire des fruits, planter des arbres. Nous n'avons pas acheté les terres, ce n'est pas nos terres. Donc il faut s'organiser. Il y a des gens qui ont fait une initiative de demander à d'autres paysans s'ils n'avaient pas des arbres fruitiers ou quoi. Et en fait, c'est un petit projet comme ça d'autogestion. Cette année, on a eu plein de fruits. Il y a plein de gens qui nous...
C'est-à-dire, ils sont allés chez les voisins et ils ont acheté les fruits là-bas?
Non, ils n'ont pas vraiment acheté. Ils ont en fait fait un pacte avec une dame là, d'un village à côté. Ils ont dit, nous, on s'occupe, on va faire le... Je crois qu'ils ont fait deux fois l'herbe dans la plantaison. Et ils ont récupéré en fait de tout, des poires, des pommes. Et donc, ça a été distribué aux membres de la coopérative dans notre production. Après, il y a des initiatives qui font du jus, par exemple, qui font le tour des villages, qui parlent aussi beaucoup aux gens. C'est pas nous, c'est d'autres gens, mais ouais, il y a beaucoup d'efforts quand même pour raviver la campagne, pour pas que des terres soient abandonnées. Et justement, le thème fruits, c'est traditionnel ici dans la région. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Il y a des gens qui font ça aussi en professionnel, bien sûr, mais on a là la chance, en fait, cette année, d'avoir eu plein de fruits parce qu'il y a une initiative des gens qui se sont débrouillés pour qu'on ait plein de fruits.
Luciano Ibarra, ici à Fribourg, am Breisgau, en Allemagne, il y a un passé long et riche de mouvements de jeunes. Alors, est-ce qu'on les appellerait alternatifs? Est-ce qu'on appellerait ça des mouvements sociaux? En tout cas, nous, à Terre à Terre, on était déjà venus il y a très longtemps pour voir les quartiers Vauban, Rieselfeld. À l'époque, déjà, on nous avait dit qu'il y avait... Encore antérieurement, un passé de squatteur qui avait été assez influent dans l'évolution de cette ville, où, il faut le rappeler, il y a eu également l'armée française pendant très longtemps. Le quartier Vauban, c'est la reprise d'anciennes casernes françaises. Et puis tout Fribourg est très célèbre pour sa politique des transports, pour sa politique énergétique. C'est la ville, je crois, où il y a le plus de solaire en Allemagne, ou en tout cas une des villes où il y a le plus de solaire. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a un cadre quand même assez particulier. Vous-même, vous y habitez depuis maintenant presque 20 ans. Comment est-ce que vous pourriez décrire, qualifier ce cadre ?
Disons, moi-même, je suis arrivé ici en 96, mais j'ai quand même senti l'histoire des mouvements sociaux ici. Et c'est vrai que, disons, dans les années 80, il y avait toute une mouvance pour les thèmes de l'écologie, la paix, contre la guerre, le mouvement autonome, les squatteurs. Tout ça, c'est vrai que ça a laissé un passé assez riche. Aussi, par exemple, au niveau de l'agriculture, le mouvement bio était très fort pendant les années 80. Mais bon, en même temps, il faut dire maintenant, dans les années 2000, surtout le mouvement écologiste, par exemple, il a été institutionnalisé au sein du Parti des Verts. Et ça, en partie, ça, disons, ça devient un peu le problème aussi, parce que, disons, les idées écologistes sont arrivées en milieu de la société dans un contexte assez capitaliste. Et aujourd'hui, moi, je dirais que même Freiburg est un des pôles, au même temps, du capitalisme vert. Mais au même temps, c'est vrai qu'on a plein de petites mouvances qui sont plus antagonistes, disons, à tout ça.
Vous pourriez nous décrire un peu ce capitalisme vert ? C'est à propos de l'énergie dont je parlais ? À propos de quoi ?
Disons, par exemple, au niveau de l'énergie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus commercialisé, même s'il y avait au début des initiatives plus vers une réappropriation, disons, de la production énergétique, de la propriété collective, de modèles décentralisés, des choses comme ça. Il y a eu pas mal, par exemple, les énergies renouvelables ont été de plus en plus. Là, par exemple, le solaire, c'est pratiquement fini, l'année 2015 maintenant. C'est vraiment fini, c'est par des décisions politiques. Mais
Plus de solaire à Fribourg ?
Si, il y a quand même il y a une capacité installée qui est très forte, mais disons, c'est quand même assez complexe. Mais bon, disons que le taux de rémunération sur les énergies renouvelables a été baissé énormément, de manière à rendre la production d'énergie solaire pratiquement non rentable. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la fin de ce secteur. C'est très dommage parce qu'il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes, peut-être une centaine de milliers de personnes qui travaillaient dans ce secteur. Et surtout à Freiburg, par exemple, j'ai plein de copains qui ont été licenciés ou qui travaillent maintenant aux États-Unis ou des choses comme ça.
Oui, mais alors pour comprendre, Luciano Ibarra, oui. Ça c'est la politique des Verts à Fribourg ?
C'est, disons, la politique au niveau de toute l'Allemagne. Disons, c'est pas forcément les Verts, mais disons, ils ont beaucoup contribué à rendre toutes ces initiatives qui venaient plutôt de la base, à les rendre compatibles avec toutes les idées de marché. Peut-être pour revenir un petit peu à l'agriculture, je pense qu'au niveau de l'agriculture, cela se reflète le mieux. Quelque chose qui a commencé comme bio, qui vraiment était pour une idée d'une agriculture paysanne, des petites fermes partout qui faisaient du bio, depuis que Renate Künast, disons, a été au ministère de l'Agriculture en tant que ministre verte, elle a contribué au même temps que tout ce bio, il arrive au milieu du supermarché. Et l'Allemagne, par exemple, c'est le paradis des discounters. C'est-à-dire des Aldi, des Lidl, des grandes surfaces, les supermarchés qui vendent de la nourriture produite de manière très industrielle. Donc aujourd'hui, on a assisté, disons, à un bio qui a été homogénéisé, dont les standards ont été très très réduits. Et là, du coup, en Allemagne, on se retrouve dans une situation où les fermes bio sont en train de fermer parce qu'elles ne sont plus compétitives au niveau du marché. C'est-à-dire qu'il est plus bon marché de produire du bio en Pologne, à Almeria, à l'étranger, disons. Et puis, il y a une demande très, très, très forte de bio. Par exemple, je crois que la croissance était de 7,2 rien que l'année passée, 7,2%. Il n'y a pas tellement de production au niveau de l'Allemagne. Donc soit les petites fermes bio, elles sont énormément sous pression, soit elles doivent fermer, elles arrêtent d'exister, ou bien il faut qu'elles se concentrent. Genre le paysan bio, aujourd'hui, il a 200 hectares et il fait 3 cultures dessus. Et ça, à mon avis, c'est aussi, disons, une logique que les Verts ont appuyée, parce que avec leur chemin, disons, institutionnel et la compatibilité avec le marché. Voilà, ça a mené à des choses comme ça.
Fribourg, c'était aussi la ville des transports doux. Très peu de voitures, beaucoup de transports en commun, énormément de vélos.
Oui, il faut dire que la ville est assez compacte, elle est très plate. Donc il y a une infrastructure qui est assez chouette. Et simplement beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui choisissent aussi de vivre sans voiture. Moi, par exemple, je n'ai pas de voiture, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Toutes les distances que je peux faire pour aller voir mes copains, acheter des choses, aller travailler, mais tout ça, ce sont des distances que je peux faire soit à pied, soit en vélo. Je peux traverser la ville en 20-30 minutes dans les deux sens. Et pour la plupart des personnes, c'est comme ça. Donc déjà, on a une moyenne assez faible aux alentours de 360 voitures pour 1000 habitants, qui est une moyenne assez faible déjà en Europe, disons. Et puis il y a des quartiers comme celui de Vauban, par exemple, qui ont été conçus avec des distances assez courtes. On a une densité de voitures de 174, je crois, pour 1000 habitants. Mais il y a aussi des choses comme le car sharing qui sont bien développées, donc les voitures partagées. Mais ça pourrait être mieux, hein, si je compare à des villes comme Copenhague, par exemple. Il y a déjà un standard plus élevé à Copenhague. Je pense que Freiburg pourrait facilement arriver à ce niveau-là s'il y avait plus de volonté politique.
Et puis, c'était la ville des coopératives d'habitants.
Effectivement, il y a une initiative ici, fin des années 80, début des années 90, qui s'appelle Mietshäuser-Syndikat. Et c'était une initiative pour collectiviser des bâtiments et les sortir de la spéculation du marché. Et c'était un petit peu, bon, à la fin du mouvement squat qui a eu beaucoup de répression, c'était une des stratégies qui a survécu, disons, qui a permis donc de collectiviser plusieurs bâtiments. L'idée de base du Mietshäuser-Syndikat, c'est de créer une SARL qui aura deux associés. Un associé, c'est une association des habitants du bâtiment qui ont beaucoup d'autonomie. Mais le deuxième associé, c'est le syndicat, justement. Et ce syndicat, le grand truc qu'il fait, c'est d'avoir un droit de veto sur la vente du bâtiment. Donc en fait, il ne sera jamais possible de vendre le bâtiment tant que les deux associés au sein de la SARL soient d'accord. Et ça permet simplement de sortir un bâtiment de la spéculation. Donc du coup, l'idée, c'est de rassembler beaucoup de microcrédits autour de ses copains, sa famille, des gens qui sympathisent et tout. Il faut prendre souvent des crédits aussi à la banque, mais disons d'une manière autogérée, d'acheter ce bâtiment, de créer de l'habitat collectif, et puis après, en remboursant les crédits peu à peu, maintenir des loyers assez faibles. Mais on va payer, enfin les gens qui habitent là vont payer un loyer toute leur vie, même si le bâtiment est déjà payé, et ça va dans un fonds de solidarité qui, lui, va contribuer à la création de nouveaux projets. Et là, à Freiburg, on peut dire qu'il y a 15 projets en ce moment, et au niveau de toute l'Allemagne, il y en a au moins 80, et puis beaucoup, plusieurs dizaines aussi en création, hein, des initiatives.
Donc ça, c'est quelque chose qui a perduré. Et ce modèle-là, non seulement il permet de créer des nouveaux projets, mais il vous a permis de créer quelque chose d'assez nouveau. Pour le coup, c'est une sorte de... Alors comment on va appeler ça? Un jardin collectif?
Oui, enfin, nous, le terme qui est populaire en Allemagne, c'est solidarische Landwirtschaft, c'est-à-dire agriculture solidaire. Mais le terme en anglais, généralement, c'est community supported agriculture, c'est-à-dire une agriculture soutenue par la communauté. Ça rappelle un petit peu le système des AMAP en France, mais il y a quelques différences là-dessus.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Luciano Ibarra, parce que aussi bien jardin collectif que agriculture community supported, supportée et soutenue par la communauté, ça renvoie très directement en France au système des AMAP. Et de fait, ce qui va être votre tâche aux uns et aux autres, c'est de nous expliquer les différences, parce que même si parfois elles ont l'air minimes, en fait elles sont assez fondamentales.
Alors je pense qu'un aspect central pour nous a été par exemple celui de la propriété collective. Notre cas est assez particulier parce qu'en fait on n'avait pas de ferme, on n'avait pas de terre, on était un mini mouvement sans terre en fait. Et notre idée a été initiée par de jeunes agriculteurs et agricultrices et des gens qui venaient de la ville, qui étaient impliqués dans le mouvement associatif et solidaire.
C'est votre cas.
Oui, c'est mon cas, oui, voilà. Enfin, moi, disons, j'ai fait des études de sciences agronomiques, mais je n'ai pas l'expérience qu'a un fermier ou un jeune agriculteur. Donc, par exemple, l'idée de la propriété collective était une des idées principales qu'on a vraiment sementées au début. Donc, par exemple, nous, lorsqu'on a réussi à trouver de la terre, on a loué donc des lieux. On n'a pas encore acheté la terre, mais on voudrait l'acheter de manière collective. Mais ce qu'on a réussi à collectiviser, ce sont les moyens de production. C'est-à-dire que chaque coopérateur ou coopératrice, les gens qui font partie du projet, ils font un crédit de 400 euros sans intérêt. Ils font un dépôt de ça à l'intérieur de l'association lorsqu'ils rentrent. Et voilà, on est presque 300 coopérateurs ou membres. Et ça nous fait une petite somme d'argent qui nous a permis de construire donc toute l'infrastructure de la jardinerie. On a des tracteurs, on a des tunnels en plastique, on a des systèmes d'irrigation, on a les outils et plein de choses qui nous permettent donc de produire. Production maraîchère, mais aussi des céréales et on a quelques vaches aussi.
Autre différence?
Ben, un aspect qui est assez caractéristique pour nous, c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire. C'est-à-dire qu'on, de manière commune, on essaye de définir une production qui est orientée à nos besoins. Et ensemble, avec les agriculteurs et agricultrices, on définit un budget pour l'année. Par exemple, là, on a défini pour l'année 2015. Et c'est aux alentours de 280 000 euros qu'on doit avoir de manière collective. Donc, au lieu de diviser ça par le nombre de membres et de dire, tiens, chacun va payer 1 000 euros. On ne fait pas ça, donc on dit, tiens, on veut essayer d'avoir ensemble 280 000. Alors il y a des gens qui ont peut-être un meilleur boulot, ils vont payer peut-être un petit peu plus, et s'il y a des gens qui sont dans une situation un peu plus précaire, ben, ils ont la possibilité de payer un petit peu moins. Et l'idée, c'est quand on fait la somme de toutes ces contributions financières, on arrive aux 280 000.
Oui, mais si on n'y arrive pas?
Ben, on réfléchit, donc peut-être qu'il y a moyen d'économiser sur la production, sur une ou autre culture, ou bien peut-être que, je sais pas, on organise, par exemple, on a fait un événement public comme ça pour avoir encore quelques fonds, on en discute quoi. Là, ce sera la 5e année, surtout cette année, ça s'est passé très très bien. Les 3 premières années ont été un peu plus difficiles, enfin, c'est un temps de stabilisation du projet, mais là, la 4e et la 5e année, on est déjà assez stable. Je dirais qu'il y a petite centaine de personnes qui payent un tout petit peu plus que la moyenne et comme ça arrive à porter, disons, les 200 autres qui payent un tout petit peu moins.
Et au bout du compte, chacun reçoit autant de légumes?
Oui, tout le monde reçoit des légumes. Il y a des projets qui font le même truc, qui disent chacun peut prendre ce dont il a besoin. Nous, on n'est pas allé jusqu'à ce point-là, mais en principe, on distribue toute la récolte de la semaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On distribue toute la récolte sur tous les membres de la coopérative. Donc effectivement, là par exemple, la fin de l'été, l'automne, il y a eu beaucoup de soleil, donc il y a eu beaucoup beaucoup de légumes. Jusque maintenant, en hiver, on a encore une bonne récolte. Donc là, c'est presque un peu trop déjà pour les gens. Par exemple, les pommes de terre cette année, enfin l'année 2014, elles n'étaient pas aussi bonnes. Elles avaient eu un petit peu d'humidité, pas très bonnes. Mais bon, ça peut varier. Donc on partage les bonnes et les mauvaises récoltes. Et disons qu'on partage la récolte sur 16, voire 17 maintenant, points de distribution. C'est-à-dire que là, par exemple, le mien, il est juste ici dans le quartier. Il y a 21 personnes qui vont chercher leur part. Et là aussi, il y a moyen de partager un petit peu. Par exemple, s'il y a quelque chose que j'aime pas, il y a une petite boîte qu'on appelle Schenkkiste, c'est-à-dire la boîte de cadeaux. S'il y a quelque chose que je veux pas, je peux le mettre là-dedans. Mais s'il y a quelque chose dans la boîte de cadeaux, je peux le prendre. Et généralement, donc, il y a quand même une liste qui va me dire, tiens, ça, c'est la partie de ta récolte. On essaye aussi de récolter un petit peu par rapport aux membres. Donc, par exemple, si on fait la récolte des poireaux en ce moment, on fait un poireau par coopérateur ou coopératrice. Ou bien, par exemple, les salades aussi, on essaye de faire juste le nombre de coopérateurs ou coopératrices.
Un poireau par coopérateur, ça va s'il vit seul, mais si c'est une famille?
Il peut y avoir plus, mais généralement, bon, la diversité est quand même assez élevée. Donc, on a quand même assez de légumes pour, moi je dirais, pour nourrir une famille ou des gens qui habitent en Wohngemeinschaft. C'est vrai qu'il y a, surtout dans les villes comme ça, il y a pas mal de célibataires ou qui habitent tout seuls. Ça, c'est effectivement un problème où on essaie de trouver une solution parce que c'est pas toujours très facile. Mais souvent, ils se mettent ensemble, c'est-à-dire deux célibataires vont se mettre ensemble pour faire une part, disons, au sein de la coopérative. On essaie de les mettre en contact et ils partagent au niveau du point de distribution. Et souvent, par exemple, là, j'ai fêté mon anniversaire samedi. Et samedi à midi, on peut aller voir s'il y a des restes. Il y avait encore pas mal de patates, par exemple. Et du coup, j'ai pris les patates. Il restait encore un poireau, tu vois. Donc, en fait, j'ai pris les patates et un poireau et j'ai fait une tortilla espagnole comme ça. Voilà. Tu vois, on peut toujours avoir un petit peu plus ou un peu moins. Mais en principe, l'idée de base, c'est de dire on va faire une production orientée aux besoins et on va distribuer le tout parmi tout le monde. Indépendamment de si cette personne a payé plus ou moins.
Je vous le disais, Luciano Ibarra, il y a vraiment des points très proches, effectivement, avec les AMAP. Est-ce que dans votre système, les coopérateurs, doivent fournir un certain nombre d'heures d'aide ou de travail dans les champs?
Oui, ce qu'on a décidé, c'est en tout cas justement, c'était que les coopérateurs et coopératrices devaient s'impliquer au niveau de la logistique et aussi dans les travaux à la ferme. C'est vrai que ça a été d'abord une décision politique et on ne savait pas exactement comment ça allait être après dans la réalité. Il y avait plusieurs motivations à ça. L'idée, c'est d'avoir un rapprochement, d'avoir, disons, cette différence entre producteurs et consommateurs, de pas avoir une séparation très stricte, mais un truc un peu plus fluide. Et d'un autre côté aussi, par exemple, moi, personnellement, j'étais très influencé par l'expérience à Cuba. Je sais que si dans les années prochaines, on va se diriger vers un système où il y aura moins d'énergie fossile disponible au sein de notre société, forcément, on va retourner à une agriculture qui sera plus intense au niveau du travail. Et si on veut une agriculture plus paysanne, plus rapprochée des lieux où on habite, elle sera plus intense en travail. Et il nous faudra beaucoup plus de partage de connaissances. Donc je voyais ça comme un truc assez important. Et les chiffres d'ailleurs que nous fournissent les Cubains, c'est que dans une situation où on n'a plus de pétrole et de grands pesticides, de fertilisants chimiques et tout ça, il y avait à peu près 15% à 20% de leur population qui participent, disons, dans la production agricole. Et la gestion des aliments et tout ça. Donc ici, l'idée, c'était vraiment d'inclure une participation assez active des membres de la coopérative. Et on a calculé plus ou moins qu'il nous faut 1300 demi-journées par an. Et en gros, ça fait, on attend 5 demi-journées par coopérateur ou coopératrice, 5 demi-journées par an. Ça, c'est pour la base. Disons, des 5 demi-journées, on peut dire 4 doivent être dans l'agriculture et une dans la logistique de distribution. On n'est pas très 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 strict au niveau de ça. On laisse aussi une certaine liberté. Donc il y a des gens qui vont venir beaucoup plus souvent que les 5 qu'on attend d'eux. Il y a des gens qui vont être là 20 fois par an. Il y en a un tiers à peu près qui vont faire exactement les 5. Et il y a peut-être un tiers de personnes qui n'arrivent pas à faire les 5 journées, ils font peut-être qu'une ou deux, ou certains n'en font aucune.
C'est accepté quand même.
C'est accepté un petit peu au même titre que pour l'argent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive aux 1300. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille un peu plus pour compenser le travail de ceux qui n'y arrivent pas, ça va. Et puis bon, par exemple, les jardins de Cocagne à Genève qui nous ont inspirés, eux, ils ont le système de faire payer 50 francs suisses, je crois, à chaque coopérateur qui ne vient pas, pour compenser le travail du fermier si le fermier doit travailler plus. Nous, on n'a pas voulu faire ça. Ça nous rappelait les mécanismes de compensation au niveau de taxes de carbone, des choses comme ça. Et on voulait pas ce genre de choses. On voulait que ça soit libre, disons. Voilà, donc on fait confiance aux gens. On préfère la communication. Mais par exemple, il y a un membre Elle est professeure, par exemple. Elle dit qu'elle n'a pas le temps de venir ou de faire les 5 demi-journées. Du coup, elle a fait une présentation quelque part, un workshop, et elle a fait don de l'honoraire, enfin de l'argent qu'on lui a payé pour ça. Elle a fait don de ça à la coopérative. Personne lui a demandé de faire cette compensation, mais elle l'a fait quand même. Et du coup, comme ça, chacun essaie de contribuer d'une manière ou d'une autre, mais on ne le fait pas à travers de l'argent. Donc, il y a aussi, par exemple, des gens qui sont un peu plus âgés, qui nous ont dit, bah, pour moi, c'est dur de faire les demi-journées physiquement, j'y arrive pas. Et, par exemple, ils cuisinent à midi, parce que quand même, pour les demi-journées, on est quand même une bonne quinzaine ou vingtaine de personnes à la ferme, ensemble avec les jardiniers, jardinières. Donc, il nous faut un repas de midi. Et du coup, ça, c'est devenu un des trucs à faire, et c'est très sympa. Ou, je sais pas, il y a des personnes qui font des tâches un petit peu plus d'organisation, des choses comme ça. On a donc une équipe professionnelle au niveau de la production agricole et on a ce qu'on appelle aussi une équipe de soutien. Et là aussi, on a professionnalisé quelques aspects, surtout la gestion financière, la gestion administrative des crédits, des membres qui font partie de la coopérative, la maintenance de la structure de communication.
La maintenance mécanique ?
La maintenance mécanique, ça c'est déjà au niveau des fermiers, donc soit eux qui s'occupent de ça, soit oui, il faut appeler un spécialiste, tout ça. Mais c'est vrai que, disons, il y a des projets qui regardent au sein des 300 coopérateurs, coopératrices, quelles sont les différentes connaissances ou choses qui sont disponibles au sein de la communauté. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous prêter un moyen de transport ou... c'est un médecin ou un bricoleur ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on essaie de contacter le membre, peut-être qu'il peut contribuer comme ça. Mais souvent, par exemple, au niveau de la mécanique, il faut que ça marche. Donc on a une certaine pression pour que les choses fonctionnent, donc on a préféré faire ça aussi de manière professionnelle.
Mais quand vous dites on a professionnalisé, ça veut dire que vous salariez quelques personnes, et le nombre de salariés, ça m'intéresserait aussi, le nombre de fermiers et le nombre de salariés, donc administratifs, organisationnels, etc.
Alors, au niveau de l'entreprise agricole, on a 4 emplois à 100%, mais en fait, c'est 5 personnes à 80%. Bon, ça devient un tout petit peu complexe parce qu'il y a aussi une personne, par exemple, qui est à 20%, mais qui vient une fois seulement par semaine. Mais en gros, on peut dire que c'est pratiquement 60% du budget annuel, c'est les salaires. Et sinon, on a donc au niveau de cette équipe de soutien, on a 20 000 euros qui sont dans un fonds. Et avec ça, on paye des petits honoraires à 3 à 4 personnes qui font les tâches administratives. Parce que ça va tout petit peu au-delà du bénévolat. Donc pour que ça soit en équilibre ou si jamais... On a discuté pendant 6 mois sur cette question avant de prendre une décision.
Mais j'étais en train de calculer en vous écoutant, Luciano Ibarra. Vous parliez des 20-25% de la population à Cuba ou dans les... 15-20%. Donc du coup, vous n'êtes pas si loin que ça du modèle cubain. Et en tout cas, vous êtes largement au-dessus des modèles de l'Europe occidentale où la population agricole a chuté de manière vertigineuse. Là, si on compte le nombre d'agriculteurs que vous avez pour une population de 300 personnes, vous êtes au-delà de 10% déjà.
Oui, mais il faut voir que derrière les 300 coopérateurs, coopératrices, il y a plus de personnes. Hein. On est au moins 600, on dirait beaucoup plus de 600.
Qui bénéficient des productions.
Oui, et aussi on n'est pas dans une situation comme à Cuba où on n'a pas accès de pétrole, donc on a quand même des tracteurs. Mais disons, on essaye d'économiser beaucoup d'énergie, d'utiliser un minimum. Notre ferme est à 19 km du centre-ville. On essaie d'avoir des distances assez courtes. On fait que du saisonnier, c'est-à-dire on ne chauffe pas de serre. Et on essaye d'avoir des distances courtes aussi au niveau de la distribution. Enfin, on a donc un transport qu'on fait avec un bus car sharing, donc qui est déjà un moyen d'économiser des ressources. Et 50% du trajet se fait en vélo avec remorque aussi. Mais au niveau de l'agriculture, disons, je trouve qu'on est déjà notre système de fertilisation et le fait d'être saisonnier nous fait économiser beaucoup d'énergie.
Et en fait, vous avez fait un film qu'on peut très facilement se procurer sur Internet sur cette expérience. Parce que vous êtes cinéaste ou parce que vous êtes tellement enthousiaste de cette expérience-là ?
Ah, les deux choses. Enfin, c'est vrai que je fais des films depuis beaucoup d'années maintenant. Et j'ai toujours eu envie, disons, de documenter des initiatives de la base, grassroots, ou des pratiques, ou des gens qui vivent un petit peu leur vision, leurs idées, et tout ça. Et dans ce cas-ci, effectivement, lorsque moi aussi j'étais un des initiateurs donc, de la coopérative, rapidement on a eu l'intérêt de beaucoup de médias. Et on avait l'impression que beaucoup écrivaient sur nous, mais ce n'était pas nous vraiment qui racontions notre propre histoire. Donc c'est un peu aussi une reprise en main de sa propre histoire, d'écrire sa propre histoire. Et on a fait, enfin, le processus de faire ce documentaire a été sur toute une saison, et aussi assez collectif. Donc tout le monde a participé. Et l'idée, c'était vraiment de transmettre, de documenter notre pratique. On l'a fait déjà dans la deuxième année, donc c'est assez tôt au niveau de l'histoire du projet. Mais en même temps, ça, il y a pas mal d'idéalisme, de dynamique. Et le film s'appelle donc « La stratégie des concombres tordus ». Voilà, il est traduit aussi, enfin, il est sous-titré en français. Et il est gratuit d'accès, disons, sur Internet.
On garde le mystère sur les concombres tordus ou vous expliquez ?
C'était un titre qui... On a trouvé ça aussi à une soirée en discutant comme ça, mais c'est un petit peu aussi l'idée. Nous, on distribue toute la récolte. Par exemple, pour les concombres, les carottes, facilement 40%, voire même jusqu'à 50% de la récolte est sélectionnée parce qu'elle ne correspond pas aux normes des grands supermarchés.
Là, vous parlez dans l'agriculture conventionnelle.
Mais dans le bio aussi, je ne crois pas qu'on va à Alnatura ou dans Aldi, ou je ne sais pas, on ne va pas trouver les concombres tordus ou les carottes avec deux pieds, alors que nous, justement, on distribue toute la récolte. On a très très peu de matériel qui revient au compost ou qu'on donne à nos vaches. On distribue vraiment toute la récolte.
Bon, vous dites même en bio, Luciano Ibarra, mais vous êtes en bio, vous aussi, vous êtes certifié.
On fait une agriculture écologique. Mais on a une relation assez pragmatique avec cette histoire de certification. On n'a pas un label comme ça que l'on met en avant. Mais effectivement, parce qu'on avait un bail avec le paysan qui nous loue les terres, on s'était mis d'accord qu'on aurait un standard bio, EG bio, c'est-à-dire le européen. Mais on fait ça un peu pro forma. Disons, on a nos propres standards. Qui pour nous sont beaucoup plus élevés. Par exemple, on a pris la décision d'utiliser seulement 100% de semences pures non hybrides. Au niveau de la fertilisation, par exemple, on voudrait avoir une autonomie au niveau de la fertilisation. On essaie de ne pas avoir un minimum seulement qui vient de l'extérieur. On n'utilise pas les restes qui viennent des abattoirs comme le font d'autres fermes bio. On fait 100% saisonnier. On a une très haute diversité. On n'a pas tellement de critères comme ça.
Mais du coup, vous passez quand même par les systèmes de certification bio ou pas du tout ?
Oui, on a donc un contrôle. On a un contrôle annuel, mais c'est au niveau de la ferme. On n'a pas le label comme ça que l'on met sur nos produits ou sur nos boîtes. Ça n'a jamais été un problème aussi d'atteindre ce niveau parce qu'en fait, notre standard est beaucoup plus élevé. Et sinon, au niveau de la formation... On a pas mal des jardiniers de l'équipe jardinière qui sont formés des méta, c'est-à-dire biologique, dynamique.
En biodynamie. Mais donc ce contrôle, si je comprends bien, c'est uniquement parce que ça vous arrange par rapport à la personne qui vous loue les terres et pas du tout par rapport aux coopérateurs qui, eux, n'ont pas besoin d'être rassurés en quelque sorte.
Voilà, donc comme les gens sont assez proches de la ferme, ils voient directement notre manière de faire les choses. On informe beaucoup sur cela. On a beaucoup de transparence et on préfère que les gens aient plutôt cette confiance directe par rapport à nos méthodes de faire les choses qu'un label qui a un standard un peu douteux.
C'est des petites vaches irlandaises, c'est ça ?
Ouais, Dexter. Ouais, c'est super, elles sont toutes petites, très légères. Donc pour notre engrais vert, c'est ce qu'il nous faut, pour pas qu'ils nous défoncent le sol en marchant dessus. Tu vois, les vaches laitières d'une tonne et plus, c'est pas l'idéal pour ce genre de concept.
Parce que vous les faites passer sur les cultures, dans les serres ?
On les laisse passer sur les engrais verts. Hein. Dans la rotation, c'est 2 fois 2 années. C'est du pré. On veut que les vaches nous améliorent la terre par cette voie-là. Puis là l'hiver, elles sont en partie en métal. Bon, elles peuvent sortir là-haut et on récupère le fumier pour fumer nos serres. C'est à 10 mètres d'ici, c'est bien.
Ouais. 3 vaches, ça suffit pour toutes ces cultures ?
Je pense pas que ça suffise pour le moment, mais disons qu'il y en a une, peut-être elle est enceinte. Elle est rendre visite à un taureau il y a quelques semaines, on ne le sait pas encore. Et disons qu'on dit 1 vache par hectare pour la nourrir. Nous en avons 3, mais les Dexter, cette race, elles sont si petites que c'est que 0,5 entités de vaches. Donc en fait, nous, on va probablement plutôt se rapprocher de 5-6 vaches de cette taille-là. Et ça sera probablement le tout. Ça semble belle.
C'est magnifique. C'est vrai, hein ?
Ouais, donc on avait coopéré avec une autre ferme. On avait des vaches en visite, en pension en quelque sorte. Et là, cette année, nous avons acheté nos propres vaches. Donc c'est seulement en train de débuter. Mais on croit que c'est un bon moyen de fertiliser les sols, d'avoir quelque chose de fermé, de fermer les circuits. On ne peut pas le fermer entièrement, parce qu'on ne ramène pas nos excréments sur la terre, mais d'améliorer les sols avec les vaches, c'est quand même une grande chance. C'est aussi quelque chose en commercial, jamais je le ferai. Je dépenserai 1500 euros pour mes engrais, je les ferai produire qu'importe où. Je pourrais produire ma bouffe, mais je n'ai pas vraiment le truc 100% sensé. Là, pour moi, c'est très très beau d'avoir cette chance. C'est seulement en coopérative. C'est pas, jamais personne n'aurait 5 vaches pour produire des légumes. C'est totalement archaïque comme approche, si on veut. Mais nous, on pense que c'est un bon chemin.
Lucas Schulz, comment on va vous présenter, vous ? Vous êtes agriculteur, paysan, fermier ? En France, dans les AMAP, on dit fermier de famille, comme il y a des médecins de famille.
Je suis peut-être en quelque sorte fermier de famille. J'aurais dit maraîcher, parce que c'est plus spécifiquement les légumes dont je m'occupe, à l'intérieur du collectif de maraîchers. Et l'agriculture, bon, en Allemagne, il y a vraiment le sens maraîchage, légumes, agriculture, plus le blé, etc. Et nous avons allé un cinquième de notre travail est focalisé sur ce métier-là. Ce serait les bêtes et le blé, alors que ouais, notre point fort, je dirais, c'est plus le maraîchage et produire des légumes pour ces 300 familles.
Mais il y a quand même aussi des céréales et de l'élevage ?
Il y a des céréales, il y a de l'élevage, pas dans un cadre où ça va nous rendre autonomes totalement. Aussi, on n'a pas encore développé l'infrastructure comme une boulangerie collective, peut-être. Donc, il y a ça aussi, parce que ça, c'est très sensé dans la rotation culturelle. Nous voulons avoir un maraîchage, si possible, extensif, avec une rotation en 12 années, dans 2 années sans du blé, puis de l'avoine. Et nous avons 2 fois 2 années d'engrais vert, et les bêtes qui vont manger l'engrais vert et améliorer notre sol. C'est une manière très conséquente, à notre avis, de faire du maraîchage. Nous avons 70 cultures que nous cultivons, et c'est une approche que nous pourrions peut-être pas faire dans un cadre plus commercial, que en fait, nos membres nous donnent la chance de réaliser. Ce n'est pas du tout un maraîchage commun, je dirais.
Déjà, ce qui n'est pas commun, ce que je remarque, c'est que vous dites « nous », ce qui est très très rare pour quelqu'un qui travaille la terre.
De dire « nous », oui, on est un collectif. C'est pour ça que peut-être l'idée de fermier de famille que tu énonçais avant, c'est peut-être plus des fermes qui ont penché vers un modèle AMAP, mais qui étaient dans des structures familiales. Nous, ce n'est pas le cas. Nous avons monté ça en collectif, entre amis, entre activistes politiques, dans un processus qui a mené à aussi l'envie et puis cette réalité de gérer cette ferme en collectif.
Vous, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ? Vous étiez déjà maraîcher d'abord ?
J'ai travaillé pendant quelques années dans le maraîchage. Je n'ai pas appris le métier, mais pratiquement j'ai appris le métier et j'ai eu diverses expériences. Et là, c'est la 5e saison qu'on commence dans la zone de la vie de Tounzel. Et je suis maraîcher, je me sens maraîcher. Peut-être un jour, je vais aussi faire mon diplôme. Ce n'est pas trop mon approche pour le moment. Je me suis investi ces dernières années avant tout dans la construction de ce collectif aussi. Bien sûr qu'il y a besoin aussi d'efforts individuels. Il y a des gens, c'est aussi les continuités, c'est rester dedans. Et puis, je crois que notre force, c'est beaucoup, beaucoup de facultés très diverses et un réseau aussi très amical qui a monté ça. Donc la dynamique a été vraiment d'arriver à quelque chose d'autre qu'une entreprise ferme avec un certain but solidaire, mais plus vraiment une coopérative solidaire et coopératrice et qui implique aussi les membres, qui implique les membres à divers étages, entre guillemets, puisque, moi, je ne sais pas si ça a été énoncé, les structures d'organisation, nous avons vraiment l'envie d'impliquer beaucoup, beaucoup de gens avec leurs idées, avec leurs inspirations et d'arriver à...
Mais donnez-moi des exemples.
Nous avons par exemple tout ce Carla Cargo qui se développe comme un projet. C'est un projet de transport lié à la coop par le fait que nous faisons partie de leur terrain expérimental, je dirais, pour développer la distribution poussée électrique par le chariot, qui est un truc assez neuf.
Attendez, expliquez-moi ça, je ne comprends pas. Luciano Ibarra.
Il faut dire que notre distribution en ville se fait avec des vélos et des remorques. On transporte jusqu'à 100 ou 200 kilos de légumes à des points de distribution en ville. Donc 50% de notre trajet se fait avec un transporteur.
100 ou 250 kilos de légumes par vélo ?
Oui, voilà, un vélo qui transporte une petite remorque avec ce poids-là à peu près. Voilà, ça a commencé parce qu'on avait besoin de le faire simplement. Et peu à peu, on a remarqué qu'il y avait des difficultés à freiner, par exemple, ou à démarrer lorsqu'il y a un feu rouge. Alors, on a adapté un petit peu la technologie du vélo électrique. On l'a adapté aux petites remorques. Et ce que disait Lucas, c'est qu'en fait, il y a un groupe de travail qui a commencé à développer des chariots comme ça. Et ça aussi, c'est un petit projet collectif où on a développé un prototype qui maintenant, peut-être que ça va donner de nouvelles idées.
Donc ça, c'est un des exemples d'intelligence collective, on va dire, de ce type de groupe. Mais peut-être plus spécifiquement, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous, ça vous apporte en tant que fermier, agriculteur, maraîcher, d'avoir un groupe dans lequel les consommateurs sont vraiment partie prenante aussi. Est-ce que c'est une aide? Est-ce que ça multiplie le nombre de bras dans les champs? Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait être un poids? Parce que je sais que dans les AMAP en France, par exemple, très souvent, la présence des consommateurs peut être vécue comme quelque chose d'un peu pesant, un peu désagréable.
Je crois que ça peut être très enrichissant, ça peut être très appauvrissant aussi. Il faut une bonne structure pour ça. Je crois que nous avons envie d'impliquer les gens et bien sûr que nous avons commencé de manière un peu chaotique. On a impliqué les gens tout le temps et on a vu cet aspect-là aussi, que ça peut être pesant, que ça peut être difficile de toujours devoir impliquer les gens alors qu'on essaie de s'organiser aussi entre professionnels. Donc là, il y a un problème là-dedans, mais de l'autre côté, nous avons quand même décidé. On veut impliquer les gens et nous voulons qu'ils se rapprochent et qu'ils apprennent. Et maintenant, nous avons, je crois, une structure où c'est 2 à 3 demi-journées par semaine que les gens viennent, puis la distribution le jeudi après-midi. Et dans tous ces aspects-là, nous voulons impliquer les gens. Et c'est bien de les impliquer et c'est enrichissant parce que nous avons maintenant, je crois, atteint un niveau où on peut dire, OK, c'est équivalent. Il y a de l'éducation, il y a du rapprochement à la terre, il y a du bon. Ça, c'est du travail pédagogique pour nous, en quelque sorte. Et de l'autre côté, nous avons un soutien pratique, réel. Et puis, ce n'est pas la même chose chez tous les membres. Les gens font différentes choses. Il y a, par exemple, un collectif d'habitation aussi qui est à Bad Krozingen, des gens plus âgés. Et il y a des gens qui viennent faire la cuisine pour les jeunes qui sont dans les champs, en quelque sorte. Et ce genre de dynamique est très beau. Chacun fait un peu dépendant de ses ressources temporelles et... Moi, je crois qu'on arrive à un niveau bien équilibré.
Est-ce que, sur le plan du travail que ça représente pour vous, vous arrivez à avoir un salaire et un temps de travail qui vous conviennent? J'étais assez impressionnée d'entendre tout à l'heure Luciano Ibarra nous dire que le budget pour cette année, c'est 280 000 euros, je crois. Ça paraît une somme très importante.
C'est une somme importante, bien sûr, mais... Il faut voir que dans ce monde-là, nous devons prendre l'argent en main ou mobiliser les ressources capitales financières qu'il faudra. Et là, je crois qu'on arrive bien. C'est 5, 6, 7 maraîchers, agriculteurs qui sont impliqués dans le projet peuvent assez bien en vivre. C'est bien, c'est OK. On prend beaucoup de responsabilités, c'est sûr. Peut-être dans un autre cadre, nous pourrions faire plus d'argent, mais ce n'est peut-être pas l'approche. Nous arrivons à en vivre bien et surtout, nous voulons... En moyenne annuelle, bien sûr, pas travailler plus que 80%. On y arrive à peu près.
Mais c'est-à-dire vous êtes à 4 jours par semaine, en gros?
C'est le but. En ce moment, moi, j'ai 5 semaines de vacances, par exemple, en hiver, pour compenser, pour équilibrer ça. Mais globalement, l'idée n'est pas qu'il y ait 2-3 maraîchers qui travaillent 140% toute l'année et qui se cassent le dos. Plutôt, allez, une demi-douzaine de gens qui essaient de s'organiser en collectif pour le faire de manière plus sensée, quoi. Et... La participation, on ne contrôle pas du tout. Hein. Nous disons, on veut que vous veniez 4 à 5 demi-journées, mais personne ne serait là à noter des noms pour savoir si les gens ont fait leur dû. C'est plutôt, on espère que les gens qui voient qu'ils n'arrivent pas à le faire, qu'ils communiquent, qu'ils arrivent à nous le transmettre, que ce n'est pas possible, ou qu'ils ont peut-être les ressources pour faire quelque chose sur la fête annuelle de la ferme, ou un truc extensif, parce qu'ils n'ont pas le temps de venir travailler sur les champs. Il y en a d'autres après qui font ça 15, 25 fois parce qu'ils sont à fond dedans, ils sont très motivés. Et ces gens-là, on peut les impliquer dans des trucs avec, qui ont plus d'importance ou qui sont plus, où il faut plus de responsabilité parce qu'on leur fait confiance. Moi, je crois que c'est ça le truc central. C'est le lien se fait chez nous avec beaucoup de communication et beaucoup de transparence. On essaie vraiment de communiquer tout ce qui se passe dans tous les cadres et ça nous donne une confiance qui nous rend aussi en quelque sorte autonomes à pouvoir décider ce qui est le mieux pour la communauté. Parce qu'on a le but de nourrir tous ces gens, si possible 52 semaines par année, on n'y arrive pas encore tout à fait. Mais c'est ça le...
Pas tout à fait, mais presque.
Ouais, 49 semaines par an. On fait 3 semaines de pause. Cette année, on est arrivé vraiment à une production très bien, je dirais. On ne veut pas que la communauté non plus pousse. Imaginez 300 foyers, ça, s'il faut, il y a 600-700 personnes qui sont impliquées quand même dans le projet. Et je crois qu'on ne veut pas forcément devenir un millier ou plus. On ne veut pas croître parce que c'est mieux d'initier d'autres coopératives, de faire plus du décentral, parce que bien sûr que cette structure, elle a ce certain visage maintenant, mais
Peut-être elle ne sera pas là pour toujours. Peut-être il y a... c'est plus la dynamique, je crois, qu'il faut pour que beaucoup de gens prennent en main l'idée d'autogérer leur nourriture. Et je crois que nous, on est un modèle entre beaucoup, quoi.
Alors, autogérer la nourriture, c'est une expression intéressante, mais je voudrais comprendre ce qu'elle recouvre quand, par exemple, vous décidez collectivement d'un programme pour l'année. Ça veut dire que, ensemble, maraîchers et consommateurs, vous décidez de ce qui va être semé, de la diversité de ce qui va être semé. Parce que, par exemple, vous pourriez aussi nourrir vos 600 membres avec des pommes de terre et des carottes toute l'année.
Alors écoutez, nous, on a quand même la diversité en tête.
Oui, mais qui dit diversité, attendez, je précise, qui dit diversité dit plus de travail. Plus il y a de variétés semées, plantées, et plus ça représente de travail pour vous. Donc comment est-ce que vous arrivez à un
mais
équilibre?
On aime la cuisine, c'est aussi aimer manger. C'est bien sûr, c'est se nourrir. Et les carottes et les patates, ce serait gérable, peut-être avec une laitue ou deux. Mais... c'est pas ça notre but. Nous voulons aussi cette idée d'une ferme qui a beaucoup, beaucoup de visages. On ne veut pas une chose monotone. On a beaucoup d'agriculture monotone ici. C'est un paysage très triste qui nous entoure.
Même directement autour de la ferme, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Luciano Ibarra ?
À propos de la planification, en fait, on fait très confiance aux agriculteurs et agricultrices de l'équipe parce qu'ils ont déjà, disons, la donnée. On voudrait la diversité et on voudrait pouvoir se nourrir sur toute l'année. Et en saisonnier, parce qu'on ne va pas chauffer les serres, par exemple. Donc ça donne déjà quelques lignes. Mais en gros, eux, ils vont évaluer combien de travail il faut mettre dedans. Il y a des cultures qui sont plus intenses que d'autres. Et puis, c'est eux qui ont les paramètres, disons, plus rationnels. Ou peut-être ils vont voir, tiens, il vaut mieux faire un tout petit peu plus d'une certaine culture parce que ça va prendre un certain espace sur le champ. Et ainsi de suite. Bien sûr qu'on va donner des retours en tant que communauté. On va dire, il y avait trop de salade cette année, je ne sais pas, il y avait trop de ceci, cela. Mais c'est, les retours, eux, ça va influencer leur programmation, mais ça se fait à très lentement et à long terme.
Lucas Schultz ?
On ne peut pas du tout faire chaque année un vote ou une discussion sur qu'est-ce qu'on va semer, parce qu'une rotation culturelle sensée, c'est un truc très complexe. Et c'est ces inspirations-là, d'accord, faire un peu moins ou un peu plus de salade ou intensifier une culture, si c'est possible, ces inspirations-là, on les prend, bien sûr. Par contre, nous avons un schéma quand même complexe que nous allons voir revenir d'ici, 7-8 ans, voir si ça, une fois que ça aura fait le tour, si vous voulez. Et c'est un travail de cette année. Hein. On arrive en cinquième année de travailler ces terres, mais nous avons passé 2 années d'un grand processus collectif avec beaucoup, beaucoup d'implications de plein de gens, avec divers idéalismes, diverses motivations. Et nous avons, c'est quelque chose de travaillé. Donc, la production en soi, nous sommes en train, je pense, d'équilibrer l'idée. Arrivons-nous à nourrir 500 ou 700 personnes? Et est-ce qu'on y arrive toute l'année? Arriverons-nous peut-être à conserver, à transformer avec une autre initiative pour vraiment, vraiment se nourrir? Peut-être avoir encore un petit hectare de blé et puis du colza pour les tracteurs, quoi. Après, il faut voir. L'autonomie alimentaire, c'est construire une structure et essayer de le faire de manière aussi horizontale que possible, tout en se donnant confiance, en s'encourageant, en se donnant l'espace d'autonomie. C'est ça, profiter vraiment des divers professionnalismes. Ce n'est pas seulement les maraîchers. C'est aussi des gens qui font l'administration, qui rassemblent de l'argent, qui font le travail, ce genre de travail ici, comme Luciano.
L'autonomie alimentaire, ça serait pour vous à terme également le pain, vous l'avez dit, également la viande, le petit élevage que vous avez démarré là ou...
Pas du tout, non. Les animaux, nous voulons les impliquer, mais pas dans un but de produire du lait, de produire de la viande. Ça a aussi des raisons économiques, c'est pas rentable. Peut-être une ferme de mi-vaches, c'est rentable, mais ce n'est pas l'approche que nous avons. Nous, on est plutôt dans un esprit impliquant les vaches sur ces 4-5 hectares pour transformer notre engrais vert parfaitement, aussi bien que possible, fertiliser les terres pour nous nourrir avec les légumes. Et s'il y a de la viande, ce sera 100 grammes par personne. On fera un barbecue avec une cérémonie, peut-être, pour notre petite vache. Et puis les quelques poules sur place, c'est l'omelette pour le travail de dimanche, par exemple.
On voit dans le film, très bien, dans la stratégie des concombres tordus, l'importance que vous accordez à la fertilité du sol. Vous travaillez énormément cette question-là.
Oui, bien sûr. C'est aussi l'un des points pourquoi nous approchons le maraîchage, avec l'implication d'animaux, avec l'implication de céréales, avec un long grès vert, une grande rotation. Bien sûr, c'est ça. L'idée d'une fertilité, c'est vraiment justement de ne pas faire de monoculture. On peut en venir aux patates et aux carottes. C'est quelque chose que nous ne voulons pas réaliser et qui, à notre avis, n'est pas vraiment réalisable non plus, pas à long terme. Ce n'est pas en battant tout de ce que nous avons envie de manger hors de nos sols quand on va avoir ce sol-là à long terme. Donc il faut beaucoup d'initiatives qui s'occupent des terres là-dehors. C'est ça qui est un peu triste, c'est quand on cultive 9 hectares là-bas, il y a des centaines d'hectares où les gens ont vraiment d'autres paramètres et approchent ça de manière très individualiste, très égoïste.
Dans quel état étaient les sols quand vous êtes arrivés ?
Très différent en fait. On a généralement des sols très bons. On pourrait faire de la vigne ou des pommes ici, c'est vraiment... c'est
sympa. De la bonne terre.
De la bonne terre, bien sûr. Et nous avons eu en partie des terres qui étaient écologiques, entre guillemets, parce que nous avons... 2 années avant qu'on arrive, ils ont transformé en écologie.
De conversion, oui.
Ils ont converti, mais pendant beaucoup d'années, ça a été la même chose que dans tout le Bas-Rhin, quoi. Intense, agriculture, maïs, tout. Asperges. Et maintenant, on est à revenir à de bonnes terres, je pense. C'est vrai qu'en 4 ou 5 années de travail comme ça, tu peux voir la différence. Hein. C'est vraiment, si tu fais, au lieu de cultiver, parce que le marché me le demande, je peux faire plus d'engrais verts pour vraiment améliorer mon sol. Ouais. C'est important, c'est clair.
Est maintenant terminée, vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.